verra peut-être kitsch. Elle s'était pourtant rendue à Verdi et à la musique. Non sans me faire remarquer, comme à son habitude, une coïncidence amusante. Tu as vu que le personnage manipulé tout au long de l'opéra s'appelle Adorno? Celui qui croit avoir raison se révolte, se trompe, mais finit par être proclamé doge. C'est fou tout de même. Elle était incapable de mettre son esprit en sommeil, même à l'opéra. Qu'avions-nous fait ensuite? Sans doute pris un taxi pour monter dîner dans un Heuriger et profiter de l'air exceptionnellement tiède du printemps, quand les collines viennoises sentent les grillades, l'herbe et les papillons. Voilà qu'il me ferait du bien, un peu de soleil de juin, au lieu de cet automne interminable, de cette pluie continue qui frappe ma vitre. J'ai oublié de tirer les rideaux, quel idiot. Pressé de me coucher et d'éteindre la lumière, il va falloir que je me relève. Non, pas maintenant. Pas maintenant que je suis dans un Heuriger, sous une treille, à boire du vin blanc avec Sarah. À évoquer Istanbul, peut-être, la Syrie, le désert, qui sait. Ou à parler de Vienne et de musique, de bouddhisme tibétain, du séjour en Iran qui se profilait. Les nuits de Grinzing après les nuits de Palmyre, le Grüner Veltliner après le vin libanais, la fraîcheur d'une soirée printanière après les veillées étouffantes de Damas. Une tension un peu gênée. Est-ce qu'elle discourait déjà de Vienne comme porte de l'Orient? Elle m'avait choqué en descendant en flammes le Danube de Claudio Magris, un de mes livres préférés. Magris est un Habsbourgeois nostalgique, disait-elle. Son Danube est terriblement injuste pour les Balkans. Plus il s'y enfonce, moins il donne d'informations. Les 1000 premiers kilomètres du cours du fleuve occupent plus des 2/3 du livre. Il consacre seulement une centaine de pages aux 1800 suivants. Dès qu'il quitte Budapest, il n'a presque plus rien à dire, donnant l'impression, contrairement à ce qu'il annonce dans son introduction, que toute l'Europe du Sud-Est est beaucoup moins intéressante, qu'il ne s'y est rien joué ni rien construit d'important. C'est une vision terriblement austrocentriste de la géographie culturelle. Une négation presque absolue de l'identité des Balkans, de la Bulgarie, de la Moldavie, de la Roumanie et surtout de leur héritage ottoman. À côté de nous, une tablée de Japonais engloutissait des escalopes viennoises d'une taille rocambolesque. Qui pendait de chaque côté d'assiette pourtant démesurée, oreilles d'ours en peluche géant. Elle s'échauffait en disant cela. Ses yeux s'étaient assombris. Le coin de sa bouche tremblait un peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Désolé, je ne vois pas l'enjeu. Le livre de Magris me paraît savant, poétique et même parfois drôle. Une promenade érudite et subjective. Quel mal y a-t-il à cela? Certes, Magris est un spécialiste de l'Autriche. Il a écrit une thèse sur la vision de l'Empire dans la littérature autrichienne du XIXe siècle. Mais que veux-tu? Tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce Danube est un grand livre. Un succès mondial qui plus est. Magris est comme toi. C'est un nostalgique. C'est un triestin mélancolique qui regrette l'Empire. Elle exagérait, bien sûr. Le vin aidant, elle montait sur ses grands chevaux, parlait de plus en plus fort. À tel point que nos voisins japonais se retournaient parfois vers nous. Je commençais à être un peu embarrassé. De plus, même si l'idée d'un austrocentrisme à la fin du XXe siècle me paraissait du plus haut comique, tout à fait réjouissante, elle m'avait vexé avec le mot nostalgique. Le Danube est le fleuve qui relie le catholicisme, l'orthodoxie et l'islam, ajouta-t-elle. C'est cela qui est important. C'est plus qu'un trait d'union, c'est un moyen de transport, la possibilité d'un passage. Je l'ai regardée, elle paraissait tout à fait calmée.